proche d'un mouvement de grève interprofessionnelle contre cette réforme, un mouvement qui va débuter le 5 décembre, mais on ne sait pas combien de temps il durera. Et à l'approche de cette échéance, le gouvernement va se réunir avant d'affronter ce fameux mur du 5 décembre. On a vu dans les sondages que l'hostilité à la réforme des retraites avait considérablement progressé dans l'opinion et que le gouvernement était peut-être en train de perdre cette bataille de l'opinion. On ne sait plus bien, on ne sait pas bien toujours aujourd'hui ce qu'il y aura dans cette réforme. Est-ce que c'est justement à force de cultiver ce flou, cette incertitude, Jean Quatremer, que le gouvernement a fait croître l'inquiétude et donc l'hostilité dans l'opinion à cette réforme ?
Comme j'ai un certain âge, je me souviens de décembre, des mouvements de grève de décembre 1995, où là, vous aviez un gouvernement qui, lui, n'avait pas cultivé justement ce flou, n'avait pas cultivé la concertation. Et Alain Juppé, je vous rappelle, Premier ministre de l'époque, était arrivé à la tribune de l'Assemblée et avait annoncé un package complet de réformes. Ça avait bloqué totalement la France. Là, on a un président et un gouvernement qui tentent effectivement de négocier, qui tentent d'expliquer ses arguments, etc. Et on dit, ah ben là, c'est le grand flou.
Il ne dit pas savoir. Ce qu'il y a aujourd'hui.
Mais parce que pour l'instant, personne ne sait exactement.
Même le gouvernement ne sait pas.
Je pense qu'ils ne savent pas. Ils sont en train d'essayer de voir où, à quel niveau ils vont mettre cette réforme. Parce que il y a un truc qui est dingue. Moi, lorsque je lis les articles, lorsque je vois les réactions sur Twitter, dans les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens vont leur voler ce qu'ils ont cotisé parce qu'ils ont mis ça dans un fonds de capitalisation. Je rappelle encore aux gens qu'il s'agit de répartition. C'est-à-dire que c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent la retraite des gens qui sont à la retraite. Et donc la question qui se pose, c'est que pour les jeunes qui sont sur plateau, comme Anne-Elisabeth Moutet par exemple, c'est de savoir si elle va être capable de payer la retraite des gens comme moi qui vont bientôt être à la retraite. Mmh. Et c'est ça la question qui se pose. Il n'y a pas d'argent miraculeux. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas une sorte de trésor caché qui va nous permettre de payer les retraites. Et le gouvernement veut couper absolument dans les retraites pour faire des économies. Non, c'est quelle va être la charge qui va peser sur les futures générations. C'est ça la question.
Le jeune Citon et après la jeune Moutet.
Moi, il me semble derrière la question technique de la valeur du point, etc., etc., qui est tout à fait intéressante, ce qui va mettre les gens dans la rue, c'est des affects. Et c'est des affects d'injustice, d'inégalité, d'iniquité. Ça fait 30 ans qu'on a le mot réforme qui vient pour des réformes néolibérales. Ça fait 30 ans que ces réformes, elles augmentent les inégalités, les injustices. On a quelqu'un qui vient nous refaire une réforme de plus. C'est le sentiment, c'est l'affect pour moi d'injustice générale qui va primer dans le fait que des gens vont sortir dans la rue. Et à mon avis, avec raison. En essayant de bloquer non pas tel ou tel détail de la négociation qui est important, mais en essayant de bloquer quelque chose. Sauf que qui dure depuis 30 ans et qui mène à une impasse.
Mais sauf ceux qui descendent dans la rue, ce sont les gens qui, justement, bénéficient de cette inégalité. Alors, c'est ça qui ne va pas.
Les régimes spéciaux,
à 52 ans, moi, ça me pose un problème fondamental.
Mais c'est epsilonien par rapport au rapport du capital et du travail. La différence de revenus du capital aujourd'hui par rapport au revenu du capital, ça, c'est énorme. Et puis les régimes spéciaux, c'est insignifiant.
S'il vous plaît, Renaud.
Il y a juste deux choses qu'on sait dans la réforme. C'est la suppression des régimes spéciaux que vous évoqué à l'instant, et puis la volonté du gouvernement de passer à un système universel par point, justement.
Mais
quelle valeur du point et à partir de quand cette réforme s'applique, à partir de quelle génération? Là, c'est pas clair du tout. Et ça, vous allez nous éclairer.
C'est très complexe, la réforme des retraites. Et sur ce, j'ai écouté toute la déclaration d'Edouard Philippe quand il l'a faite, et c'était plutôt impressionnant parce qu'il disait la vérité. Et la vérité, c'est pas des éléments de langage. Et résultat, effectivement, c'est compliqué. Il y a plusieurs. Il dit, on va essayer de trouver un endroit où on va mettre le curseur entre quelque chose complètement à l'emporte-pièce et puis ce qui s'appelle la clause du grand-père et qui est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va être quand on va nettoyer un petit peu la table, on va se rendre compte que c'est ça la question la plus importante. La clause du grand-père, ça veut dire, est-ce que les gens qui sont rentrés dans une entreprise où il y avait un régime spécial ont tous, puisqu'ils sont rentrés dans cette entreprise, ils ont le droit de l'avoir? En d'autres termes, est-ce que nous décalons en réalité la mise en œuvre de la réforme de 30 ans?
Oui,
et ça, c'est une vraie question. Parce que ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Et là, ils sont en train de chercher la quadrature du cercle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir une volonté politique qui, je crois, existe sur ce point précis, puis ce n'est pas la première fois. Nicolas Sarkozy a essayé, il a fait quelque chose, mais il a été ensuite frappé par la crise financière. Mais comment est-ce qu'on fait ça et que ça n'échoue pas? Quelque chose sur lequel je n'ai pas envie de persifler, parce que c'est une réforme importante. Je suis d'accord avec Jean Quatremer pour dire qu'il s'agit de faire une... Il y a un seul pot, et le pot, c'est celui auquel nous abondons, c'est tout.
D'accord.
En 1945, il y avait 8 actifs qui payaient la retraite d'un seul retraité. Aujourd'hui, il y en a moins de 2. Et donc, voilà. On se rend bien compte que c'est pas les mêmes équilibres.
Ce qui m'intéresse quand même dans ce système aussi, pour ma voisine en particulier, c'est ce qui se passe aux femmes, avec ce qui se passe avec les femmes. Il y a plein d'associations de défense des droits des femmes qui montrent que cette réforme, les résultats de cette réforme, ça serait encore pire dans les inégalités hommes-femmes. Et là, quand même, voilà. Mais là, dans les points de négociation, il y a quand même ça qu'il faut vraiment mettre sur la table. C'est absolument essentiel.
La question, ça va être de voir la stratégie que va mettre en place le gouvernement et surtout la stratégie que va mettre en place le mouvement social pour réitérer la victoire comme il y avait pu l'avoir en 95. Moi, je constate que la première journée de grève, vous avez chiffré, vous venez de donner le nombre de manifestants avec le chiffre de la police plutôt que des syndicats, mais c'est pas grave.
C'est 800 000 sur la police, 1,5 million sur les syndicats.
Donc, en fait, dans les deux cas, 300 000 de plus pour le premier jour que par rapport à la façon dont ça avait débuté en 95. Donc, ça veut dire déjà que ça démarre fort. Ensuite, il y a un deuxième élément quand même plutôt positif, c'est que il semblerait qu'on parte, c'est ce qui se discute dans beaucoup de secteurs, sur une grève reconductible, c'est-à-dire jour après jour, plutôt que de faire des journées comme ça à saute-mouton éparpillées qui permettent en fait au patronat et au gouvernement de mettre en place des pare-feux. Là, on part sur un conflit.
Donc, côté syndicat, c'est le retrait ou rien. Il n'y a rien à négocier.
J'en sais rien. Moi, je ne parle pas à la place des syndicats, mais moi, je pense effectivement qu'on est sur une contestation qui vise cette retraite, mais qui vise beaucoup plus largement, qui vise même nos conditions de travail à toutes et tous. Aujourd'hui, les inégalités qui explosent. Enfin, je veux dire, c'est contre cette réforme, mais c'est contre Macron et c'est contre son monde, contre
donc
tout ce qu'il représente.
Donc l'issue, c'est quoi? C'est la chute du gouvernement? C'est le départ d'Emmanuel Macron?
Oui, il ne faut rien s'interdire. Tout est ouvert aujourd'hui. Il ne faut rien s'interdire. Le départ d'Emmanuel Macron, peut-être, ça craque sur toute la planète. Aujourd'hui, vous avez vu, vous prenez une carte sur tous les continents.
La convergence d'élus, qu'elle est planétaire pour vous.
Contre leurs gouvernants, que ce soit des gens d'extrême droite ou de l'extrême
centre. Enfin, on n'est pas en Irak.
Les gouvernements d'extrême centre sont en train de se faire remettre en question par leur peuple. Et donc, on peut espérer que la France entre dans la danse.
Alors, je dirais, il y a deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a des contestations partout, qu'on soit dans une époque, c'est la fin des rapports démocratiques pacifiés, disons ça comme ça. Il y a des polarisations partout, par les populistes de gauche ou populistes de droite, comme on dit, par les peuples tout simplement, des colères légitimes qui prennent plusieurs visages. Cela dit, cette idée comme quoi on doit mettre à l'agenda la chute d'un gouvernement légitime élu selon des institutions démocratiques acceptées.
13%
oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est un système démocratique légitime.
Non, c'est pas une démocratie, c'est une oligarchie autoritaire.
Alors, convenons d'un désaccord.
Laissez-vous parler.
Convenant de désaccord complet, on peut contester un gouvernement, on peut l'inviter à remettre sa réforme à plus tard ou à la laisser de tout côté. Mais si l'objectif devient faire tomber le monarque, bon, ça nous rappelle d'un côté ce que j'appelle le côté à la fois monarchiste et régicide de la France, mais surtout un manque de culture démocratique chez ceux qui diraient on n'aime pas le résultat des élections, on n'aime pas le programme, donc on le fait tomber. Me semble-t-il qu'il y a des mécanismes dans nos sociétés pour être capable de faire tomber le souverain, on appelle ça des élections.
Est-ce que cette fois-ci, ça y est, il y a une coagulation de tous les mécontentements sociaux contre le gouvernement, le pouvoir en place? Et qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de l'état de notre démocratie que cet état de protestation massive?
Mais justement, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que finalement, le gouvernement fait tout pour, en fait. D'un côté, donc, il y a un préalable déjà que j'aimerais poser, donc j'ai toujours montré aussi tropisme africain, mais en tout cas vu de l'étranger, c'est que quand même cette grève dont on nous a préparé un peu comme un ouragan, hein, avec les intempéries, etc. Préparez-vous, calfeutrez-vous, etc. Organisez-vous, mettez des chaussures, etc. C'est quand même une des preuves de l'identité française la plus forte à l'étranger. C'est-à-dire que et c'est quelque chose dont on devrait être fier.
C'est un rituel.
Vraiment. Mais c'est un rituel, mais c'est quelque chose, c'est la preuve.
C'est un signe de bonne santé aussi.
Exactement, de bonne santé démocratique. C'est qu'il y a une grève qui va avoir lieu, qui est légale, et qu'il ne va pas y avoir des morts ou des répercussions suite à cette grève. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif.
Et la deuxième
dont on devrait s'enorgueillir. Ensuite, il y a quand même une question, je me demande, mais quelle est cette communication du gouvernement? C'est-à-dire que poser des mots comme ça, comme des anathèmes, qui vont forcément coaguler les gens et les énerver, parce que une grève sur les retraites, les retraites...
c'est surtout une absence d'information. Tout est flou, encore.
Une absence d'information, mais quand on
regarde
le rapport de Levoy est assez clair, je trouve, et c'est là-dessus que va s'inspirer, qu'ils vont s'inspirer pour créer cette réforme. Donc, en tous les cas, c'est assez clair. Donc, les gens savent à peu près à quelle sauce ils vont être mangés. Et en tout cas, ça ne leur plaît pas. Mais dans tout état de cause, comment on vit aujourd'hui, la question, c'est comment vit-on 43 ans avec 1 600 euros par mois, quand on sait que le loyer moyen, c'est 600 euros en France et 900 euros en région parisienne, etc., etc. C'est la question du niveau de vie quotidien. C'est pour ça que ça va matcher, entre guillemets, avec les gilets jaunes, et que forcément, il va y avoir une résonance et potentiellement une convergence des luttes.
Tain Chauffier, est-ce que ce front syndical, il est aussi uni que cela, ou est-ce que entre les différents syndicats, il demeure des différences de fond, justement, quant à leur positionnement face au gouvernement?
Il y a un nihilisme syndical absolument ahurissant. C'est-à-dire, Quel est le projet des syndicats? Ils disent, le gouvernement avait dit, où on peut un âge pivot à 64 ans, où on fera une réforme universelle. Résultat des courses, on fait les deux. Donc, évidemment, catastrophe.
Oui. Changement de système, oui. et réforme par
et réforme par donc, catastrophe garantie. Et on a la catastrophe, surtout qu'ils avaient très mal organisé. Mais les syndicats en face, est-ce qu'ils proposent quelque chose? Non, c'est du nihilisme intégral. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils alimentent la révolte. Tous. Et en plus, ils alimentent la révolte.
La CFDT répète qu'elle est pour la réforme du système par points.
La CFDT, écoutez, maintenant, c'est extraordinaire. On en est au stade où la CFDT est devenue le dernier espoir de la France raisonnable. Vous dites, la CFDT peut nous sauver. Je vous rappelle que la CFDT, c'est quand même elle qui a défendu à mort les 35 heures. Les 35 heures qui ont coulé l'économie française, qui ont coulé l'industrie française, qui nous ont fait perdre énormément de productivité. Donc, si on en est aujourd'hui à espérer s'être sauvé par la CFDT, c'est pas comme ça que ça se passera. Et en plus, il n'y a pas de programme. C'est ça qui est inquiétant. Avec les... Ils disent, on ne veut pas du projet gouvernemental, mais qu'est-ce qu'ils proposent en face?
Alors,
ce qui va se passer, c'est qu'il y aura...
Pascal Blanchard avait... hein? Attends, non, je me demandais si Pascal Blanchard avait une idée.
Non, tous les syndicats sont pas sur la même ligne, puisque la CGT est aujourd'hui beaucoup plus fondée sur défendre les régimes spéciaux, parce que c'est son cœur de... à la fois son territoire syndicaliste et, je dirais, une vieille tradition, puisqu'elle a mené depuis 50 à 60 ans cette guerre pour avoir ces régimes spéciaux. La CFDT, comme la CFTC à une époque, comme EFO d'ailleurs, est beaucoup plus pour écouter, alors là, elle est entre deux mondes, à la fois sauvegarder une place qu'elle a leur dans les la SNCF, la RATP, mais aussi écouter les salariés avec un système qui doit muter et de rassurance. Donc on voit bien que leurs enjeux ne sont pas les mêmes.
Mais ça, c'est des nuances corporatistes.
Non, ce n'est pas des nuances corporatistes parce que les uns sont prêts à accepter une... D'ailleurs, les gens dans la rue ne sont pas d'accord sur pourquoi ils manifestent. La moitié des gens manifestent pour leur retraite et l'autre pour défendre les régimes spéciaux. Donc
la
ils
moitié
sont déjà...
des gens. Non, non, non. La moitié les régimes spéciaux, c'est 250 000 personnes et il y a 15 millions de salariés. Alors, non. Il y a 250 000 personnes qui se battent pour leur intérêt et qui nous disent qu'ils se battent pour nous. Et c'est pas vrai.
Il y a eu 1 million de personnes, voire un peu plus, dans les rues. Tout le monde n'était pas de la SNCF et de la RATP.
Oui,
c'est compliqué parce qu'il y a aussi
beaucoup de fonctionnaires.
Il y a eu aussi. Mais bien entendu, et c'est normal, puisque les fonctionnaires sont les premiers à attaquer.
Est-ce que le risque, Thomas Papayonnaoui, c'est pas que ça soit de plus en plus difficile de sortir de cette grève, tout simplement parce que les grévistes perdu trop d'argent?
Alors, mais honnêtement, je pense que c'est stratégique de faire la grève en décembre, parce que comme je pense qu'il y a aussi le 13e mois, et ils sont un petit peu, ils sont protégés quelque part de cette manque d'argent. Mais je pense que ce n'est pas un hasard quand on prépare les grèves. En tout cas, cette fois-ci, ils ont bien calculé. Mais pour juste renverser les déclarations d'Edouard Philippe, parmi les déclarations d'Edouard Philippe, il y avait des choses très, très positives. Hein. Je parle en tant que les mères, ils sont un peu mieux.
Les mamans.
Plus protégés et plus défendus. Il y a aussi les cotisations solidaires des riches dans les pensions, ce qui est une nouveauté. La garantie de 1000 euros minimum. Il y a des choses positives aussi. Donc voilà, quand les gens attendent, les citoyens attendent ça, ce n'est pas une atroce réforme qui va écraser les gens, mais il y a aussi des bonnes choses et plus équitables. C'est vrai qu'il a respecté une partie de sa parole, il l'a respecté. Il y a une meilleure équité.
Alors, j'ai dit que si les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales, qui croient au régime universel, se mettent d'accord pour dire quel est le chemin qui permet d'arriver à l'équilibre, la trajectoire et les instruments. Je prends. Aucun problème. Je fais mien leurs propositions.
Pascal Blanchard, c'est donc le Premier ministre qui est en première ligne, ouais. Qui ouvre, dit-il encore, toujours la porte aux négociations avec les syndicats. Emmanuel Macron, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, sauf aujourd'hui à Bruxelles, à l'occasion d'une conférence de presse. Occasion lors de laquelle il a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron que selon lui cette réforme est historique et qu'elle n'est pas d'abord budgétaire, c'est d'abord une réforme systémique, un changement de système.
Tout à fait. Parce qu'il essaye de ramener le débat non pas sur le fait que le gouvernement ait purement une vision libérale, simple, équilibrer les comptes, mais il y aurait une dimension sociale, on vient de le dire, puisqu'il y a certains points dans le discours d'Edouard Philippe qui étaient tout à fait extrêmement positifs, sauf qu'ils sont inaudibles. Donc là aujourd'hui maintenant l'arrivée dans le jeu du président de la République, c'est de rendre audible ce qui n'a pas été entendu de ce qu'a dit en fait contre Edouard Philippe, parce qu'Edouard Philippe n'a été écouté que sur un pan de ce qu'il a dit. Le problème, on en parlait, c'est qu'ils ont mélangé deux questions en même temps. La question de la défense des régimes spéciaux et la question d'une nouvelle vision des retraites. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont incapables d'écouter les deux sujets en un. Et donc le président va reprendre la parole parce que d'une certaine manière, politiquement, Édouard Philippe est inaudible.
On a l'impression toujours qu'ils sont éclatants d'intelligence et qu'ils se prennent pour des génies. C'est leur réforme, personne n'y comprend rien. C'est ça qu'il faut... Et donc, ils sont tellement intelligents qu'ils font une réforme qui échappe à tout le monde. Résultat des courses, ils vont dans le mur et donc ils reprennent la parole.
Et à la